Chapitre 14. Madame Van Brandt chez elle. Comme je levais la main pour tirer la sonnette de la maison, la porte s'ouvrit du dedans et je me trouvai en face de M. Van Brandt lui-même. Il avait son chapeau sur la tête et nous nous rencontrions évidemment juste au moment où il allait sortir. « Mon cher monsieur, que vous êtes bon! Vous m'apportez la meilleure des réponses à ma lettre en venant vous-même. » Madame Van Brandt est chez elle. Madame Van Brandt sera enchantée. Entrez donc, je vous prie. » Il ouvrit la porte d'une pièce qui donnait sur le palier. Sa politesse était encore plus blessante que son insolence. « Asseyez-vous, monsieur Germaine, je vous en prie. » Il se tourna vers la porte ouverte et appela du bas de l'escalier, à voix haute et d'un ton d'autorité. « Marie, descendez de suite !» Marie. Je connaissais enfin son nom de baptême et je l'apprenais de la bouche de Van Brandt. Je ne saurais dire combien ce nom me choqua en passant par ses lèvres. Pour la première fois depuis bien des années, mon esprit se reporta vers Greenwater Broad. Un moment après, j'entendis sur l'escalier le frôlement de la robe de Madame Van Brandt. Dès que le son en frappa mes oreilles, les anciens temps et les anciens visages disparurent de ma pensée aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Qu'avait-elle de commun avec la frêle et timide petite fille, son homonyme d'autrefois? Quelle analogie pouvait m'offrir cette sordide maison meublée de Londres avec le cottage fleuri et embaumé du régisseur près des bords du lac? Van Brandt retira son chapeau et me salua avec une servilité écœurante. « J'ai un rendez-vous d'affaires, me dit-il, qu'il m'est impossible de remettre. Excusez-moi, je vous prie. Madame Van Brandt vous fera les honneurs de la maison. Bonjour. » La porte de la maison s'ouvrit et se referma. Le frôlement de la robe se rapprocha lentement de plus en plus. Elle parut devant moi. « Monsieur Germaine ! » s'écria-t-elle en se reculant, comme si ma seule vue la repoussait. « Est-ce honorable ? Est-ce digne de vous ? Vous me laissez tendre un piège pour vous recevoir et vous acceptez M. Van Brandt pour complice ? Oh, monsieur, je m'étais accoutumé à vous considérer comme un homme de cœur. Que vous me désappointez amèrement !» Ses reproches glissèrent sur moi inaperçus. Ils ne firent qu'aviver son teint et qu'augmenter le ravissement que j'éprouvais à la regarder. « Si vous m'aimiez autant que je vous aime, dis-je, vous comprendriez pourquoi je suis ici. Aucun sacrifice ne saurait me coûter pour vous retrouver après 2 ans d'absence. » Elle s'approcha tout à coup de moi et me fixa d'un œil ardemment scrutateur. « Il doit y avoir quelque malentendu, dit-elle. Ou vous n'avez pas reçu ma lettre, ou vous ne l'avez pas lue. » « Je l'ai reçue et je l'ai lue. »« Et la lettre de Van Brandt, l'avez-vous lue aussi ?»« Oui. » Elle s'assit près d'une table et, appuyant ses bras dessus, elle se couvrit le visage de ses mains. Mes réponses paraissaient l'avoir non seulement affligée, mais troublée. « Tous les hommes se ressemblent-ils donc ?» l'entendis-je se dire à elle-même. « Je croyais pouvoir compter sur le sentiment de ce qu'il se devait à lui-même et sur sa compassion pour moi. » Je fermai la porte et m'assis près d'elle. Elle retira ses mains de son visage en me sentant près d'elle et me regarda avec une surprise froide et calme. « Qu'allez-vous faire ? » me demanda-t-elle. « Je vais essayer de regagner votre estime, dis-je. Je vais vous supplier d'avoir pitié d'un homme dont le cœur et la vie vous appartiennent. » Elle se dressa sur ses pieds et regarda autour d'elle d'un air d'incrédulité, comme si elle doutait d'avoir bien entendu et compris mes dernières paroles. Avant que j'eusse pu rouvrir la bouche, elle me regarda tout à coup en face et frappa la table de sa main ouverte avec une résolution passionnée que je lui voyais pour la première fois. « Attendez !» s'écria-t-elle. « Tout ceci doit finir et va finir. Savez-vous quel est l'homme qui vient de sortir de cette maison ? Répondez-moi, monsieur Germaine, je parle sérieusement. » Il n'y avait pas à se taire, elle était sérieuse, très sérieuse. « Sa lettre m'apprend, dis-je, que c'est monsieur Van Brandt. » Elle se rassit et détourna la tête. « Savez-vous pourquoi il vous a écrit ? » me demanda-t-elle. « Savez-vous pourquoi il vous a invité à venir dans cette maison ?» Je me rappelais le soupçon qui m'avait traversé l'esprit en lisant la lettre de Van Brandt et je ne répondis rien. « Vous me forcez à vous dire la vérité, » continua-t-elle. « En revenant à la maison, hier soir, il m'a demandé qui vous étiez. Je savais que vous étiez riche et qu'il avait besoin d'argent, et je lui dis que je ne connaissais pas votre position dans le monde. Il était trop fin pour me croire. Il se rendit donc dans un café pour y consulter un almanach d'adresse. À son retour, il me dit « Monsieur Germaine possède un hôtel dans Berkeley Square et une maison de campagne dans les Highlands. » Il n'appartient pas à un pauvre diable comme moi d'offenser un homme comme lui. Je prétends m'en faire un ami et je compte que vous en ferez autant. » Il s'assit et vous écrivit. « Je vis sous la protection de cet homme, Monsieur Germaine. Sa femme n'est pas morte comme vous pourriez le supposer. Elle vit et je le sais. Je vous ai écrit que j'étais indigne de votre intérêt et vous m'avez forcé à vous dire pourquoi. » Et maintenant, suis-je assez avilie pour vous ramener à votre bon sens ? Je me rapprochai d'elle. Elle essaya de se lever et de s'éloigner. Je connaissais ma puissance sur elle et j'en usais comme l'eût fait tout autre homme à ma place. Je lui pris la main. « Je ne crois pas que vous vous soyez avilie volontairement, lui dis-je. Vous avez été forcée d'accepter votre position actuelle. Il y a des circonstances qui vous excusent et que vous me cachez à dessein. « Rien ne pourra me convaincre que vous soyez une femme vile. Vous aimerais-je comme je fais si vous étiez réellement indigne de moi ?» Elle s'efforça de me retirer sa main, mais je la retins dans la mienne. Elle chercha alors à changer de conversation. « Il y a une chose dont vous ne m'avez pas encore parlé, » dit-elle avec un faible sourire forcé. « Avez-vous revu mon apparition depuis que je vous ai quitté ?»« Non. » « Et vous, m'avez-vous jamais revu comme dans votre rêve à l'auberge d'Édimbourg ?»« Jamais. Nos visions nous ont quittés tous les deux. Pouvez-vous me dire pourquoi ?» Si notre conversation avait continué sur ce sujet, nous nous serions certainement reconnus. Mais elle s'arrêta là. Au lieu de répondre à sa demande, je l'attirai plus près de moi et je revins au sujet défendu de mon amour. « Regardez-moi, lui dis-je, et dites-moi la vérité. » Pouvez-vous me voir et m'entendre sans ressentir dans votre cœur quelque sympathie pour moi ? Vous suis-je vraiment indifférent ? N'avez-vous jamais songé à moi pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis que nous nous sommes vus pour la dernière fois ? Je parlais comme je sentais, avec ferveur, avec passion. Elle fit un dernier effort pour me repousser et fléchit en le faisant. Sa main pressa la mienne, un faible soupir s'échappa de ses lèvres. Elle me répondit en s'affranchissant de la contrainte qu'elle s'était imposée jusque-là. « J'ai continuellement pensé à vous, » dit-elle. « J'y pensais hier soir à l'opéra. Mon cœur a bondi dans ma poitrine lorsque j'ai entendu votre voix dans la rue. « Vous m'aimez, » murmurai-je. « Vous aimez, » répéta-t-elle. « Mon cœur vous appartient en dépit de moi-même. Avilie comme je le suis, sachant comme je le sais qu'il n'en peut rien advenir, « Je vous aime, je vous aime !» Elle me jeta les bras autour du cou et me pressa contre elle de toute sa force. Un moment après, elle tomba à genoux. « Oh, ne me tentez pas, » dit-elle, « ayez pitié de moi et laissez-moi !» Je ne me possédais plus, je lui parlais aussi follement qu'elle l'avait fait. « Prouvez-moi que vous m'aimez, » lui dis-je, « laissez-moi vous arracher à la dégradation de vivre avec cet homme. » Quittez-le à l'instant et pour toujours. Quittez-le et venez partager avec moi un sort digne de vous en devenant ma femme. « Jamais !» répondit-elle en se prosternant à mes pieds. « Pourquoi non ? Quel obstacle s'y oppose ?»« Je ne puis, je n'ose vous le dire. »« Voulez-vous me l'écrire ?»« Non, je ne peux même pas vous l'écrire. Partez, je vous en supplie, avant que Van Brand ne rentre. » Partez, si vous m'aimez et si vous avez pitié de moi. » Elle avait éveillé ma jalousie et je refusais positivement de partir. J'insiste pour connaître ce qui vous lie à cet homme, lui dis-je. Qu'il rentre, et si vous refusez de répondre à ma question, je la lui poserai à lui-même. Elle me regarda éperdue en poussant un cri de terreur. Elle avait lu sur mes traits ma résolution. Ne m'effrayez pas, dit-elle. « Laissez-moi y réfléchir !» Au bout d'un instant, ses yeux brillèrent comme si elle avait trouvé quelque moyen de parer à la difficulté. « Votre mère est-elle vivante ? » me demanda-t-elle. « « Oui. Pensez-vous qu'elle consentirait à venir me voir ?»«
J'en suis sûr si je le lui demandais. »
Elle réfléchit encore un instant. « Je confierai à votre mère quel est l'obstacle, » me dit-elle d'un air pensif.
« Quand ?»« Demain, à cette heure-ci. »
Elle se releva sur ses genoux, les yeux remplis de larmes. Elle m'attira doucement vers elle.
« Embrassez-moi, » murmura-t-elle. « Vous ne reviendrez jamais ici. Embrassez-moi pour la dernière fois. »
Mes lèvres avaient à peine touché les siennes qu'elle se redressa sur ses pieds et saisit mon chapeau sur la chaise où je l'avais déposé.
« Prenez votre chapeau, » dit-elle, « il vient de rentrer. »
Mon oreille, moins sensible que la sienne, n'avait rien entendu. Je me levai et je pris mon chapeau pour la tranquilliser. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit doucement et subitement. Monsieur Van Brandt entra. Je lus sur son visage que quelque vil motif l'avait poussé à nous surprendre et que le résultat de l'épreuve l'avait désappointé. « Vous ne partez pas encore ?» dit-il en me parlant, l'œil fixé sur Madame Van Brandt. « J'ai expédié mon affaire en toute hâte, dans l'espoir de vous décider à rester pour goûter avec nous. Ôtez votre chapeau, Monsieur Germaine. Pas de cérémonie. » « Vous êtes bien bon, répondis-je. Je ne suis pas libre aujourd'hui. Je vous prie, ainsi que Madame Van Brandt, de m'excuser. » Je pris congé d'elle en parlant. Elle pâlit mortellement en me donnant la main pour me dire adieu. Avait-elle à craindre quelque brutalité de la part de Van Brandt dès que j'aurais tourné le dos? La seule pensée m'en fit bouillir le sang. Mais je songeai à elle. Dans son intérêt, la seule chose sage et compatissante à faire était de me concilier ce drôle avant de quitter la maison. « Je suis désolé de ne pouvoir accepter votre invitation, » lui dis-je en nous dirigeant ensemble vers la porte. « Peut-être m'offrirez-vous un dédommagement ?» Il cligna de l'œil avec malice. « Que dites-vous d'un modeste petit dîner ici ?» me demanda-t-il. « Une tranche de gigot, vous savez, et une bouteille de bon vin. Entre nous trois et un vieil ami à moi pour faire le quatuor. Nous ferons une partie de whist dans la soirée. Marie sera votre partenaire, hein ? Sera-ce pour après-demain ? » Elle nous avait suivis jusqu'à la porte en se tenant derrière Van Brandt pendant qu'il me parlait. Lorsqu'il mentionna le vieil ami et la partie de whist, son visage exprima le plus profond sentiment de honte et de dégoût. Le moment d'après, quand elle l'eut entendu fixer à après-demain le jour du dîner, ses traits se rassérénèrent comme sous l'impression d'un sentiment subi de soulagement. Que signifiait ce changement ? Demain était le jour qu'elle avait fixé pour voir ma mère. Pensait-elle réellement que lorsque j'aurais appris le résultat de cette entrevue, je ne rentrerais jamais dans cette maison, ni n'essaierais de nouveau de la revoir ? Était-ce cela le secret de son calme lorsqu'elle avait entendu fixer après-demain le jour du dîner ? J'acceptai l'invitation tout en m'adressant ses questions et je quittai la maison, le cœur oppressé. Ce baiser d'adieu, ce calme subi lors de la fixation du jour du dîner, pesait sur mon esprit. J'aurais donné 12 ans de ma vie pour supprimer les 12 heures prochaines. Je rentrai chez moi dans cette disposition d'esprit et je me rendis dans le boudoir de ma mère. « Vous êtes sorti aujourd'hui plus tôt que d'habitude, » me dit-elle. « Est-ce le beau temps qui vous a séduit, mon cher ?» Elle s'arrêta et me regarda plus attentivement. « Georges, » s'écria-t-elle, « que vous est-il arrivé ? Où avez-vous été ?» Je lui dis la vérité aussi franchement que je viens de le faire ici. Ma mère rougit, elle me regarda et me parla avec une sévérité que je lui avais rarement connue. « Faut-il que, pour la première fois de votre vie, je vous rappelle le respect dû à votre mère ?» me demanda-t-elle. « Est-il possible que vous comptiez que j'irai rendre visite à une femme qui, de son propre aveu ?»« Je compte que vous irez rendre visite à une femme qui n'aurait qu'un mot à dire pour devenir votre belle-fille, » répliquai-je en l'interrompant. « Certes, je ne vous demande de là rien qui soit indigne de vous. » Ma mère me regarda tout effarée. « Prétendez-vous, Georges, lui avoir offert de l'épouser ?»«
Oui. » »«
Et elle a refusé ?»«
Et elle a refusé parce qu'il y a un obstacle de son côté. J'ai vainement tenté d'en obtenir une explication. Elle m'a promis de se confier entièrement à vous. » La gravité du cas produisit son effet. Ma mère fléchit. Elle me tendit les petites tablettes d'ivoire sur lesquelles elle avait coutume d'inscrire ses engagements. « Inscrivez-moi son nom et son adresse, » me dit-elle avec résignation. « J'irai avec vous, » répondis-je, « et j'attendrai à la porte dans la voiture. Il faut que je sache ce qui se sera passé entre Madame Van Brandt et vous aussitôt que vous l'aurez quittée. Est-ce aussi sérieux que cela, Georges ?»« Oui, ma mère, c'est aussi sérieux que cela. »